إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نجاني الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد، on poursuit donc dans cette quatrième intervention dans la série autour des biographies des grands lecteurs du Coran. Et la première biographie qu'on avait commencé donc depuis 4 semaines, c'est la biographie de Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. Et on s'est arrêté la semaine dernière aux particularités de Zayd. Et je vous avais dit donc cette semaine, on va aborder donc les particularités de Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. Et ensuite, l'histoire de la compilation du Coran, puisque Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu est le premier compilateur du Coran. Alors Zayd ibn Thabit, il fait partie premièrement des grands lecteurs du Coran. Et c'est également la référence chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant une science qui est perdue, qui est méconnue aujourd'hui ou qui se perd de plus en plus et qui est sujet très souvent à des disputes familiales, qui n'est autre que l'héritage. Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu était un spécialiste de cette science de l'héritage, al-mawarith, ou comme on l'appelait à l'époque, al-fara'id. Et à ce point-là, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit afraduhum, ou bien afradukum Zayd, c'est-à-dire celui qui connaît le plus dans cette science-là de al-fara'id, qui est al-mawarith, c'est Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. Et on a un tabi'i qui s'appelle Sha'bi, l'imam Sha'bi, rahimahullah. Vous avez déjà sûrement entendu parler de l'imam Sha'bi. Il disait, rahimahullah, ghalaba Zaydun an-nasa 'ala thnatayn. Ghalaba Zaydun an-nasa 'ala thnayn. Al-fara'id wal-Qur'an. Zayd, donc, a eu raison des gens. Donc, il a surpassé les gens sur deux choses. La première, c'est al-fara'id, l'héritage. Et la deuxième, al-Qur'an. La troisième chose, c'est que Zayd ibn Thabit radiallahu anhu, en plus d'être un spécialiste de l'héritage et du Coran, c'était également, il faisait partie également des compagnons qui délivraient des fatwas, donc des avis juridiques. Parce que tous les compagnons n'étaient pas des muftis. Tous les compagnons ne délivraient pas des fatwas. Ibn Qayyim rahimahullah, il les restreint à quelques dizaines de compagnons qui délivraient des fatwas. Et parmi eux, Zayd ibn Thabit radiallahu anhu. Également, Zayd ibn Thabit, c'était un spécialiste aussi dans les affaires juridiques, ce qu'on appelle al-qada. Tout ce qui est juridique, Zayd ibn Thabit radiallahu anhu était un spécialiste. Également, comme on l'avait dit aussi, Zayd ibn Thabit, c'était un scribe et un traducteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc non seulement il écrivait la révélation, le Coran, mais il écrivait également toutes les correspondances entre l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les états donc aux alentours. Également, Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait partie de Ahlul Shura, c'est-à-dire le conseil consultatif. Le calife, il avait autour de lui un conseil consultatif, et Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, en faisait partie. Septièmement, Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, durant le califat de Omar ibn al-Khattab, très souvent, lorsque Omar ibn al-Khattab voyageait, eh bien, il laissait comme chef d'État par intérim Zayd ibn Thabit radiallahu anhu. Et notamment, de ce qui nous a été cité et rapporté dans l'histoire, à trois reprises, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a voyagé et il a laissé Zayd ibn Thabit donc comme chef d'État par intérim. Donc une fois pour le Hajj, une fois pour l'Umra et une fois pour un voyage au Chem, dans la Grande Syrie. Également, durant le califat de Uthman ibn Affan radiallahu anhu, Zayd ibn Thabit, il recevra de la part de Uthman ibn Affan des étudiants qui sont venus vers Uthman pour apprendre le Coran. Donc Uthman ibn Affan, il recevra donc des étudiants qui viendront apprendre le Coran auprès de lui. Mais Uthman ibn Affan, comme il est calife, il est occupé par les affaires des gens, donc il les renverra vers Zayd ibn Thabit radiallahu anhu. Et à ce sujet-là, donc on a une histoire d'un lecteur du Coran qui fait partie des tabi'i, qui s'appelle Abdurrahman al-Sulami. Abdurrahman al-Sulami, lorsqu'on étudie donc les chaînes de transmission du Coran, on le retrouve très souvent dans les chaînes de transmission du Coran, Abdurrahman al-Sulami. Abdurrahman al-Sulami, il est venu chez Uthman ibn Affan pour réciter le Coran. Et Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit « Idhan tushghiluni ani nazari fi umuri nas » En venant me réciter, eh bien tu m'occuperas, tu me dérangeras, pas de manière négative, mais tu me dérangeras sur quelque chose de plus important qui est donc le fait de gérer les gens. Et ensuite, qu'est-ce qu'il lui dira à Uthman ibn Affan ? Il lui dira « Famdi ila Zayd ibn Thabit, fa innahu afragu li hadha al-amr, faqra alayh, fa inna qira'ati wa qira'atahu wahida » Uthman ibn Affan, il lui dira « Va chez Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, parce qu'il a plus de temps. Il a plus de temps que moi. Lis auprès de lui, parce que sa lecture et ma lecture sont identiques. « Fa inna qira'atahu wa qira'ati wahida, laysa bayni wa baynahu fiha ikhtilaf » Il n'y a aucune divergence entre ma lecture et sa lecture. Tayyib. Passons maintenant à Zayd ibn Thabit et le Coran. Vous savez tous que le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant une période de 23 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation donc à l'âge de 40 ans et ce jusqu'à la fin de sa vie à l'âge de 63 ans sallallahu alayhi wa sallam. Les premiers versets qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez tous que c'est le début de la sourate Al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق يقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Voilà les premiers versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçus. Les derniers versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçus, alors ici il y a différents avis chez les savants. Certains nous disent que parmi les derniers versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçus, le fameux verset de la sourate Al-Ma'idah, le verset numéro 3 de la sourate Al-Ma'idah, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ. D'autres savants ils disent que le dernier verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu en révélation, c'est le verset 281 de la sourate Al-Baqarah. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et les compagnons qui ont mémorisé le Coran durant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après sa mort sont très nombreux. Très nombreux donc sont ceux qui ont appris le Coran de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de la bouche des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que comme on le verra inchallah dans la biographie de Zayd ibn Thabit, plusieurs compagnons vont apprendre le Coran chez Zayd ibn Thabit radiallahu anhu. Et la transmission du Coran jusqu'à aujourd'hui, elle s'est faite de deux manières. Il y a eu la transmission orale et la transmission écrite. La transmission orale donc c'est la lecture du Coran, c'est-à-dire entendre la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses missions, parmi les missions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de réciter le Coran, ça fait partie de ses missions. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire. En fait, il faut bien prendre en considération qu'une des missions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la récitation du Coran. Et ça on le retrouve dans plusieurs versets du Coran, notamment dans la sourate Al-Jumu'ah. Allah Azza wa Jalla nous dit هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. Donc parmi les missions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de réciter le Coran et que les autres, que les gens de manière générale, musulmans ou non, entendent le Coran. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla nous dit dans sourate Al-Ankabut اتلو ما أوحي إليك من الكتاب اتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. Récite donc ce qui t'a été révélé du livre. Dans la sourate Tawbah, le prophète Allah Azza wa Jal, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire écouter le Coran aux idolâtres qui viennent demander donc la protection du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui viennent demander l'asile. Wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Donc accorde-lui l'asile. Si quelqu'un vient te demander l'asile parmi les idolâtres, accorde-lui l'asile jusqu'à ce qu'il entende le Coran. Hatta yasma'a kalam Allah. Autrement dit, parmi les missions ou une des missions les plus importantes du prophète sallam, c'est de réciter et de faire entendre le Coran à tout le monde. Également, la récitation du Coran, elle se faisait dans les mosquées. Les mosquées sont les lieux par excellence du Coran, de la récitation du Coran. Donc dans les rassemblements, dans les prières, dans les musallas, à l'extérieur des mosquées. Ça arrive notamment dans les prières de l'Aïd et dans les prières également de l'éclipse. Al-Khusuf, Al-Khusuf, le prophète sallam ne priait pas à la mosquée. Il priait à la musalla, il priait dans un terrain vague à l'extérieur. Tout ça sont des moments propices pour écouter le Coran. Également, et ça va vous paraître peut-être étonnant, mais dans les prêches du vendredi, il arrivait que le prophète sallam, le contenu de son sermon, soit la récitation d'une sourate. Aujourd'hui, si quelqu'un monte sur le minbar et récite le Coran, sa khutbah jumu'ah, c'est une sourate du Coran, on va dire ce khatib ne vaut rien du tout. Il n'a pas fait de khutbah. Alors qu'en réalité, le prophète sallam, il a été rapporté de énormément de chaînes de transmission que le prophète sallam récitait le Coran, sa khutbah, le contenu de la khutbah, c'était une sourate du Coran. Et ça arrivait avec quelle sourate notamment? La sourate Qaf. Le prophète sallam récitait la sourate Qaf pendant la khutbah al-jumu'ah. À tel point, alors vous allez peut-être encore être plus étonné, qu'une femme qui s'appelle Ummu Hisham bintu Tha'labah radiyallahu anha, elle dit qu'elle a appris la sourate Qaf du prophète sallallahu alayhi wa sallam à force de l'entendre, la réciter dans le sermon du vendredi radiyallahu anha. Donc pour vous dire déjà premièrement que la récitation du Coran dans le prêche du vendredi, c'est pas quelque chose qui est étonnant, qui doit être étonnant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi la mémorisation de ces gens, de ces générations particulières. Donc la récitation du Coran, subhanallah, elle occupait une place centrale dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'était pas limitée à un groupe de personnes. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi. Donc depuis 14 siècles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il récitait le Coran, il ne visait pas une partie des gens. Il visait tout le monde. Elle n'était pas réservée à une partie des gens. Contrairement aux gens du livre, la connaissance reposait simplement sur les moines, les prêtres, etc. Il n'y a qu'eux qui connaissaient les livres, tant que l'imprimerie n'était pas apparue. Et parmi les facettes de l'attention profonde qu'accordait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au Coran et à sa lecture, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonçait une récompense particulière pour celui qui lit le Coran. Vous connaissez tous les hadiths, hein, dans lesquels le prophète sallam annonce que chaque lettre que tu lis du Coran, eh bien tu as 10 hasanat pour chaque lettre que tu récites. Donc si tu récites Alif Lam Mim, Alif Lam Mim est composé de 3 lettres, donc tu as 30 hasanat. Tout ça, Yannis, c'est des facteurs de motivation pour la lecture du Coran. Également, dans un hadith, le prophète sallam nous dit « Iqra'u al-Qur'an, fa'innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'a li ashabih » Lisez le Coran car il viendra le jour de la résurrection comme intercesseur pour celui qui le lisait. اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة أو فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما يوم القيامة. Ensuite, le prophète sallam dit, اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. Donc lisez le Coran de manière générale. Au début, le prophète sallam, il est large. Lisez le Coran. Il viendra comme intercesseur le jour du jugement dernier pour celui qui le lisait. Ensuite, il particularise Al-Baqarah wa Al-Imran. Qui s'appelle comment? Ces deux sourates? Az-Zahrawain. Il les appelait les deux lumineuses. Az-Zahrawain. Fa'innahuma ta'tiyani yawm al-qiyamati ka'annahuma ghamamatan. Elles viendront le jour du jugement dernier comme deux nuages. Ou comme deux groupes d'oiseaux qui viendront défendre celui qui les récitait dans la vie d'ici-bas. Et ensuite, le prophète sallam, il particularise encore. اقرأوا سورة البقرة. Lisez la sourate al-Baqarah. فإن أخذها بركة. Le fait de la prendre, de la mémoriser, eh bien c'est une baraka, c'est une bénédiction. وتركها حسرة. Le fait de la délaisser, eh bien c'est un regret. Ensuite il dit ولا تستطيعها البطلة. Et les sorciers ne peuvent rien contre elle. البطلة يعني السحرة. Parmi les facettes également de l'attention profonde qu'accordait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la transmission orale, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait à certains compagnons de lui réciter le Coran. Ou le professeur Salim, il allait lui-même réciter le Coran à certaines personnes, à certains compagnons. Alors vous imaginez, le professeur Salim qui vous demande de lui réciter le Coran, ou à l'inverse, le professeur Salim qui vient te réciter le Coran. Et ça, c'est arrivé notamment avec Abdullah ibn Mas'ud et avec Ubay ibn Ka'b. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, je cite un premier exemple, hein. Ici c'est l'exemple de Zayd ibn Thabit radiallahu anhu, qui nous rapporte, qui dit « Qara'tu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa al-najmi idha hawa falam yasjud fiha » Donc Zayd ibn Thabit, il dit « J'ai récité la sourate wa al-najmi idha hawa au prophète sallallahu alayhi wa sallam » et il n'a pas fait de prosternation. Vous savez tous que à la fin de la sourate An-Najm, il y a une prosternation. Le prophète sallam n'a pas fait la prosternation au moment donc où il l'a récité à Zayd ibn Thabit. Après, est-ce qu'il y a une prosternation ou pas? Est-ce que c'est une obligation de faire la prosternation? Tout ça, c'est des questions d'ordre juridique. L'exemple numéro 2, c'est celui de Zayd de Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, qui nous rapporte que le prophète sallam est venu le voir et il lui a dit "Inna Rabbi amarani an aqra'a 'alayka sourate Al-Bayyinah." Surat lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeena munfakina hatta ta'tiyahum albayyinah. Et là, Ubay ibn Ka'b, qu'est-ce qu'il va dire au prophète sallam? Est-ce qu'Allah azza wa jal il m'a cité avec mon nom? Et là, le prophète sallam va lui dire na'am. Et là, Ubay ibn Ka'b, il va fondre en larmes. Également, Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallam, il lui a demandé de lui réciter la surat Nisa. Abdullah ibn Mas'ud, il va commencer à réciter surat Nisa, jusqu'à arriver à une quarantaine de versets de la sourate Nisa, arrivé au verset où Allah Azza wa Jal dit فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Et là le prophète sallam va dire à Abdullah ibn Mas'ud, il va lui dire hasbouk, arrête-toi. Et Abdullah ibn Mas'ud il racontera qu'il verra donc sur le visage du prophète sallam donc des larmes couler. Parce que ce verset-là, Yanné, c'est un verset qui est lourd de sens. Autrement dit, le prophète sallam va venir le jour du jugement dernier. Yanné, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Il viendra en tant que témoin pour l'humanité entière. Également, le fait que le prophète sallam, donc parmi les facettes Yanné, qui montrent l'attention que le prophète sallam accordait à la lecture du Coran, le fait que le prophète sallam, c'était la référence. Le prophète sallam, il représentait la référence et l'autorité vers qui on revenait pour la correction en cas de divergence. Donc lorsqu'il y avait des compagnons qui divergeaient sur un verset, vers qui ils revenaient? Du vivant du prophète sallam, ils revenaient vers lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, on a une histoire qui est rapportée donc par l'imam Ahmed, selon Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui récitait donc la surat al-Qamar. Surat al-Qamar. Vous savez tous, dans la surat al-Qamar, il y a un verset qui se répète quelques fois dans la surat al-Qamar, qui est le verset وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرْ يَكْ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرْ avec un del. Abdullah ibn Mas'ud, quand il récitait ce verset-là, il avait récité en prononçant un del à la place du del. Il disait فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرْ. Là, le prophète sallam lui a dit فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرْ avec un del. Également, parmi les choses qui montrent l'importance aussi de la récitation du Coran et de la transmission orale, c'est la rencontre entre le professeur sallam et Jibril chaque année pendant le mois du Ramadan. Jibril alayhi sallam, il descendait voir le professeur sallam chaque nuit du Ramadan et ils se récitaient mutuellement le Coran. C'est ce qu'on appelle al-mu'arada. Al-mu'arada, c'est un mot qui indique qu'il y a une action mutuelle. Donc, c'est-à-dire Jibril alayhi sallam lisait, le professeur sallam écoutait, et le professeur sallam lisait et Jibril écoutait. C'est ce qu'on appelle al-mu'arada. Et ça, c'est arrivé combien de fois? Une fois par année pendant le mois du Ramadan. Sauf la dernière année de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où cette année-là, l'ange Jibril alayhi wa sallam, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à deux reprises. Et c'est d'ailleurs ça qui a poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à comprendre que la fin de sa vie était proche. Et c'est ce qui a passé comme message à sa fille, Fatima radiallahu anha. Un jour, Fatima radiallahu anha, elle était assise à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallam lui a parlé en secret. Et Fatima radiallahu anha a pleuré. Ensuite, il lui a redit quelque chose. Et là, elle a souri. Et Aïcha radiallahu anha, qui était à l'extérieur de la scène, elle raconte, elle voit donc Fatima radiallahu anha pleurer une fois, et elle la voit sourire une autre fois. Elle va lui demander, Je t'ai vu sourire une fois, je t'ai vu pleurer une fois, ensuite tu as souri. Pourquoi? Et là, Fatima radiallahu anha, elle va dire le prophète sallam, mon père, Abu al-Qasim, sallallahu alayhi wa sallam, m'a informé que l'ange Jibril alayhi sallam est venu le voir à deux reprises cette année. Et il a compris que cela indiquait la fin de son délai de vie. Et là, j'ai pleuré. Et ensuite, il m'a informé que j'étais la première à le rejoindre. Et là, j'ai souri. Et effectivement, les historiens nous racontent que Fatima radiallahu anha est décédée donc 6 mois après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était la première fille à rejoindre donc son père après sa mort. Donc voilà concernant la transmission orale du Coran. Passons maintenant à la transmission écrite du Coran. On a dit que le Coran a été transmis par la voie orale et par la voie écrite. Par la voie écrite, eh bien vous savez tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait donc la révélation. Et on avait dit la semaine dernière que le prophète sallam avait des scribes, al-kuttab. Ces scribes, bien-nés, leur rôle, c'était à chaque fois que le prophète sallam recevait un verset, il les appelait pour écrire les versets qu'il a reçus. Et le plus célèbre de ces scribes, on a dit que c'était Zayd ibn Thabit radiallahu anhu. On avait dit que l'imam al-Iraq, rahimallah, avait cité qu'il y en avait plus de 40. L'imam Ibn Abdul Barr en a cité 20, l'imam al-Iraqi en a cité plus de 40. À la kulli hal, Zayd ibn Thabit radiallahu anhu, c'était le scribe le plus célèbre du prophète sallam. C'est celui que le prophète sallam appelait le plus. Et qu'est-ce qui se passait lorsque le prophète sallam recevait un verset? Donc il appelait ce scribe, il venait et lui indiquait donc le verset en question, et ensuite il lui disait dans quelle sourate il fallait mettre ce verset. Et donc il disait ضعوا آية كذا في موضع كذا. Mettez tel verset à tel endroit. Donc placez tel verset à tel endroit. Et on avait expliqué également cette transmission écrite de quelle manière elle se faisait. Rappelez-vous, donc on avait cité la parole de Zayd ibn Thabit radiallahu anhu lorsqu'il disait كنت أكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت قال اقرأه. Donc il écrivait. Dès qu'il terminait d'écrire, le prophète sallam demandait à Zayd de relire ce qu'il avait écrit. فَأَقْرَأُهُ. Donc Zayd, il le lisait. فَإِنْ كَانَ فِيهِ سَقْطٌ أَقَامَهُ ثُمَّ أَخْرُجُ بِهِ إِلَى النَّاسِ. Et si, en écrivant, donc il avait oublié un mot, il avait oublié une lettre, il s'était trompé dans quelque chose, eh bien le prophète sallam était là pour corriger. Et ensuite, dès que cette correction-là elle était faite, eh bien Zayd ibn Thabit, il prenait ces écrits-là et il sortait donc auprès des gens avec, pour transmettre les versets donc révélés. Alors la question qu'on pourrait se poser maintenant, et on y reviendra aussi par la suite, quels sont les supports que les compagnons, radiallahu anhum, utilisaient pour écrire? Sur quel support ils écrivaient? Alors avant de répondre à cette question, on va se remettre yani, dans l'environnement dans lequel vivaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam vivaient dans la péninsule arabique. Donc c'est un climat désertique. Ils n'ont ni feuilles, ni stylos. On est d'accord? Taïb. Et en réalité, même quand on analyse réellement la situation, les feuilles et les stylos, c'est quelque chose d'assez récent, comparé à l'époque à laquelle vivaient les compagnons. Donc les Arabes, ils vivaient dans un milieu désertique. Et les Arabes, subhanallah, la particularité qu'ils avaient, c'était qu'ils avaient une vie très simple. Donc ils exploitaient tout ce qu'il y avait dans la nature. Ils vivaient autour de chameaux, de moutons, de brebis, de chèvres. Ils avaient des pierres autour d'eux. Ils avaient les palmiers, les dattiers, etc. Donc c'était une vie très simple. Donc eux, pour l'écriture du Coran, ils ont fait simple, ils ont exploité tout ce qu'ils avaient autour d'eux. comme ils vivaient de manière très simple, et de toute façon, ils n'avaient pas d'autres moyens pour écrire, donc ils ont exploité tout ce qu'ils avaient comme ressources autour d'eux. La première ressource qu'ils ont utilisée pour l'écriture du Coran, c'est ce qu'on appelle en arabe al-riqa', al-riqa' min al-juloud, c'est-à-dire les peaux d'animaux, donc les peaux en cuir. Donc la peau, on la prenait, on la tanne, la débarre, on tanne la peau, et ensuite ils l'utilisaient notamment pour l'écriture du Coran. La deuxième chose qu'ils utilisaient également, c'était les os d'animaux, notamment les omoplates de chameaux. La troisième chose qu'ils utilisaient, c'était al-usb, ou bien al-usub, c'est le pluriel de asib. L'asib, c'est les feuilles de palmier, ou bien les branches de palmier. La quatrième chose qu'ils utilisaient, comme c'est cité dans les textes, al-likhaf. Al-likhaf, yani, c'est des pierres qui sont fines, larges et lisses. Dessus, donc ils gravaient le Coran dessus. La cinquième chose qu'ils utilisaient également, c'était les planches de bois. Des planches de bois, et notamment ce que dans les textes on appelle al-aqtab. Al-aqtab, c'est le pluriel de qatab. Al-qatab, yani, c'est la selle de chameau. La selle de chameau. La selle de chameau, elle était faite en bois. Donc on utilisait ce bois-là pour écrire les versets du Coran. Taïb. Une autre question qu'on peut se poser, et que beaucoup posent, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou pourquoi le Coran n'a pas été compilé durant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On pourrait se poser cette question-là. Pourquoi le Coran n'a pas été compilé durant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors, à cette question-là, on a plusieurs réponses à apporter. La première, c'est qu'il faut revenir tout le temps à cette base fondamentale qu'on a dit tout à l'heure, c'est le besoin. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est présent parmi les compagnons, est-ce qu'à votre avis, ils ressentiront le besoin, de compiler le Coran, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parmi eux, il vit parmi eux? Donc je pense que la réponse, elle est très claire. La réponse, elle est non. Ils ne ressentiront pas le besoin de compiler le Coran parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est présent parmi eux et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam représente l'autorité de manière générale, mais aussi l'autorité dans le Coran. Donc aucun besoin ne se fait ressentir à ce moment-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la compilation, quand tu veux compiler quelque chose de manière générale, tu compiles quelque chose qui est abouti, quelque chose qui est fixe et quelque chose qui est fini. Or, le Coran ne cesse d'être révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'aux derniers instants de sa vie. Est-ce qu'il est pensable de pouvoir compiler quelque chose qui continue à être révélé jusqu'aux derniers instants de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? En sachant que, comme je vous avais dit tout à l'heure, notamment, par exemple, parmi les derniers versets qui ont été révélés, le verset 281 de la sourate numéro 2. Donc, si le Coran était déjà compilé, comment tu vas introduire le verset 281 de la sourate numéro 2 dans cette compilation-là? Comment tu vas introduire le verset 3 de la sourate numéro 5, « Al-yawma akmaltu lakum dinakum » en plein milieu, alors que dans le Coran, il y a 114 sourates. Donc, on ne compile que quelque chose qui est fini et abouti. Et comme les versets du Coran, eh bien, ne cessait d'être révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin de sa vie, eh bien, la compilation n'a pas pu être possible durant son vivant. Autre chose aussi sur ce point-là, c'est que vous savez tous que dans le Coran, il y a aussi des versets qui sont abrogés. Et des versets qui sont abrogés, ce qu'on appelle an-nasr. Des versets qui sont abrogés dans la lecture et dans l'écriture. Et ça, je vous renvoie donc à l'intervention de Cheikh Nourdine, lorsqu'il avait parlé de Nasr dans la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait abordé un moment donc l'abrogation al-Nasr. Et je vous renvoie donc vers cette intervention parce qu'il en avait parlé de manière détaillée. Donc il y a des versets qui sont abrogés. Donc est-ce qu'on peut compiler le Coran alors qu'il y a des versets qui sont abrogés? Non. Donc on est obligé d'attendre que tous les versets soient révélés pour ensuite pouvoir faire cette compilation. La troisième chose, et c'est une question essentielle, j'attends de vous une réponse, à votre avis. Qu'est-ce qui est la base dans le Coran? Est-ce que c'est la transmission orale ou est-ce que c'est la transmission écrite? Est-ce que c'est la lecture, la mémorisation? Ou est-ce que c'est l'écriture du Coran? Qu'est-ce qui est... Où est la base? La transmission orale ou la transmission écrite? Non. La transmission orale, Hassan. En réalité, la transmission écrite, l'écriture du Coran, elle vient simplement compléter la transmission orale. Elle vient simplement pour préserver le texte. Elle vient simplement renforcer la transmission orale. Autrement dit, l'écriture seule, si tu viens, tu prends le Coran tout seul, tu auras du mal à le lire s'il n'y a pas la transmission orale avec. Tu prends par exemple, hein, comme Cheikh l'avait cité la fois dernière, tu prends la lettre Alif, Lam et Mim. Alif, Lam et Mim. Tu le lis comment? Si tu formes un mot, ça se lit comment? Alam. Et si tu le lis de manière séparée, tu scindes chaque lettre, comment tu le lis? Alif, Lam, Mim. Et ces deux choses ont été rapportées dans le Coran. Tu ouvres la sourate Al-Baqarah, Alif, Lam, Mim. On ne le lit pas Alam, on le lit Alif, Lam, Mim. Et tu prends la sourate Al-Sharh. Il y a l'Alif, Lam, Mim au début. Alam, Nasharah, Laka, Sadarak. Donc s'il n'y a pas la transmission orale, l'écrit ne te servira à rien. Tu n'arriveras pas à le lire correctement. Wadih. Également, par exemple, tu prends dans la sourate Hud. Dans la sourate Hud. Le verset où Allah Azza wa Jal dit « وَقَالَ اِرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجِرَاهَا وَمُرْسَهَا » Si tu lis le verset tel qu'il est écrit dans le Coran, « Al-Mim, Al-Jim, le Ra, l'Alif, le Ha, l'Alif. » Ça se lit comment ?« مَجِرَاهَا » Sauf que ce qui nous a été rapporté par transmission orale, c'est qu'ici, il y a une email là dans ce verset-là. On ne le lit pas « مَجِرَاهَا » mais on le lit « مَجِرِيهَا » On le lit avec une email là. Ça, s'il n'y a pas la transmission orale, est-ce que tu peux le deviner, abadan. Tu prends la sourate Yusuf. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف. تأمننا, lorsque tu regardes dans le mushaf, on t'a mis un petit signe, on t'a mis un petit losange coloré en noir. Mais si tu n'as pas la transmission orale, tu ne sauras pas lire le verset correctement. Parce que ici, ce verset-là, il se lit de deux manières, soit avec الروم, soit avec l'ishmam. Tu lis ما لك لا تأمننا. Donc tu fais rentrer un petit noun, mais une haraka, elle n'est pas entière. مَا لَكَ لَا تَأْمَنُنَا ou bien tu lis مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُف. Donc là c'est ce qu'on appelle الروم والإشمام. Ça, s'il n'y a pas la transmission orale, tu n'apprends pas le Coran auprès d'un cheikh, ces informations-là tu vas les zapper et tu ne liras pas le Coran comme il a été lu dans les premières générations de l'islam. Tu prends le verset dans la sourate Fussilat, أَعْجَمِيٌ وَعَرَبِي أَعْجَمِيٌ. Il y a deux hamzas qui se suivent parce que tu regardes dans le Coran, les deux hamzas ne se lisent pas de manière claire. On ne on lit pas « a'ajamiyun ». On le lit avec le tashil. On dit « a'ajamiyun arabi ». On le lit avec le tashil. Mais ça repose sur quoi? Sur la transmission orale du Coran. Donc en réalité, la transmission écrite, elle vient simplement préserver le texte du Coran. Mais cette transmission écrite, elle doit absolument être complétée par la transmission orale du Coran. Et subhanallah, lorsqu'on analyse un petit peu la situation, le Coran n'a pas été compilé durant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais regardez que on peut quand même remarquer que dans le Coran, il y a des versets qui indiquent que le Coran sera compilé. Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate Al-Bayyinah, Rasulun min Allahi yatlu suhufan mutahhara. Donc, un messager de la part d'Allah Azza wa Jalla qui leur récite des feuilles purifiées. Donc ça fait penser que il y aura une sorte de compilation. Dans la sourate Habasa wa Tawalla, في صحف مكرمة hein? في صحف مكرمة donc consigné dans des feuilles honorées. Donc là il y a des petites allusions sur le fait que le Coran il sera compilé même s'il n'a pas été durant le vivant du prophète sallam, mais encore des allusions plus fortes. Je dirais c'est même plus des allusions, c'est quelque chose d'explicite. C'est qu'Allah Azza wa Jal il nomme le Coran comment? Al-Kitab. Il l'appelle Al-Kitab. Al-Kitab c'est quelque chose qui est renfermé entre deux couvertures. Et à quel endroit On le retrouve à plein d'endroits du Coran, mais particulièrement quand même quelque chose qui doit frapper, qui doit nous marquer l'esprit, c'est que c'est juste après la sourate Al-Fatiha. Alif Lam Mim, Zalika Al-Kitab. Et Allah Azza wa Jal, il ne limite pas ça, il ne dit pas Zalika Al-Kitab, il rajoute La Raïba Fiha. Donc voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Donc le livre, ça signifie qu'il sera compilé entre deux couvertures. Et ce livre-là, il n'y a aucun doute à son sujet. Et j'avais apprécié une fois, subhanallah, en lisant un écrivain qui avait fait une petite remarque par rapport à ce verset-là, un prédicateur un écrivain aussi. Il avait dit au sujet de ce verset-là, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Il a fait une remarque très pertinente, subhanallah. Il a dit, dans la vie de tous les jours, lorsque quelqu'un rédige un livre, dans l'introduction, il précise tout le temps que... Il précise les difficultés de sa recherche et il dit que finalement les résultats auxquels il a abouti, C'est finalement que sa propre version des choses. Il n'est jamais sûr de ce qu'il produit. Donc il le précise en introduction. Allah Jalla wa'ala, dans l'ouverture du livre, il a marqué tout de suite le coup en disant « ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ » C'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. À l'inverse de l'être humain. Parce que l'être humain, ce qu'il produit, il y a des doutes à son sujet. Alors que le livre d'Allah Jalla wa'ala, il est infaillible. Subhanallah. Taïb, ensuite, et on terminera sur ça Inch'Allah, la compilation du Coran après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a compris qu'ici, le Coran n'a pas été compilé durant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a compris pourquoi il n'a pas été compilé durant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que s'est-il passé? Donc on sait tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu 63 ans. Il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, l'an 11 de l'Hégire, au début de la 11e année de l'Hégire. Taïb. Est venu lui succéder derrière le véridique, As-Siddiq, Abu Bakr, radiyallahu anhu. Abu Bakr, son règne, il durera 2 ans et demi. Mais dès le début de son règne, il sera donc confronté à des vagues d'épreuves qui toucheront donc, qui secoueront donc l'État musulman. Et parmi eux, parmi ces troubles hein, qu'il a vécu, c'est Harbu Ahlir Ridda. Donc on a un groupe de personnes qui ont apostasié après la mort du prophète sallam et qui refusaient de verser la zakat au calife. Et ce groupe de personnes était alimenté par Musaylim al-Kadhab, ou bien Musaylim al-Kadhab. Musaylim al-Kadhab, donc c'était cet homme hein, qui a prétendu la prophétie au temps du prophète sallam. Parce que Musaylim al-Kadhab, il faisait partie de la tribu des Banu Hanifa. Et les Banu Hanifa sont une tribu les Banu Hanifa donc sont une tribu qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de sa vie. Donc lors de ce qu'on appelle Amul Wufud, les délégations qui sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de sa vie. Il y avait parmi eux les Banu Hanifa. Les Banu Hanifa étaient fraîchement convertis à l'islam. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, ils ont refusé de verser la zakat. Ils ont de la zakat, on l'a versé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le verset nous dit "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum." Donc prends de leurs biens une sadaqa yani, qui les purifiera. Donc ce verset-là, il s'adresse à qui? Qu'est-ce qu'il doit prendre cette sadaqa? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour eux, c'est selon leur compréhension. Et donc ils ont refusé de donner la zakat. Et certains d'entre eux donc, sont même sortis de l'islam. Et ils sont alimentés après à côté par Musaylim al-Kadhab. Et Musaylim al-Kadhab, il était dans la région du Najd. La région du Najd, c'est ce qui correspond aujourd'hui. Donc c'est le plateau hein, désertique yani, au milieu de l'Arabie, de la péninsule arabique. Donc, où se situe aujourd'hui, on va dire plus ou moins, la ville de Riyad et tous les alentours, toute cette région-là, donc c'est ce qu'on appelle le Najd. Musaylim al-Kadhab, il était là-bas. Et Abu Bakr, radiallahu anhu, dès qu'il a succédé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris donc l'affaire à bras-le-corps et il est parti tout de suite aller combattre donc, ceux qui ont apostasé et également Musaylim al-Kadhab. Donc, il a mené des guerres, plusieurs guerres. Et la guerre dont il a la plus rude, c'était celle contre Musaylim. Et celui qui était à la charge de cette guerre, c'était qui? C'était... Non. Celui qui dirigeait l'armée. Khalid ibn al-Walid. C'était Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu. Donc c'est lui qui dirigeait l'armée. Donc ils sont partis, ils ont combattu Musaylim al-Kadhab jusqu'à ce qu'il soit assassiné. Et celui qui l'a assassiné d'ailleurs, c'est qui? C'est celui qui a assassiné l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hamza. C'est qui? Wahshi. C'est pour ça que Wahshi disait... Et j'espère que par cet acte-là, eh bien, que j'expierai donc ce que j'ai fait donc à Hamza. Taïb, dans cette guerre contre Musaylim al-Kadhab, énormément de personnes sont décédées. Donc on cite plus de 700 compagnons qui sont morts durant cette guerre, durant cette bataille. Et parmi eux, il y avait beaucoup de récitateurs du Coran, beaucoup de lecteurs du Coran. Et parmi ces lecteurs du Coran qui sont décédés à ce moment-là, il y avait un célèbre lecteur du Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cité parmi ceux auprès de qui on doit prendre le Coran. C'est Salim Mawla Abi Hudhayfa. Salim Mawla Abi Hudhayfa. Il faisait partie de ceux qui sont décédés à ce moment-là. Et là, lorsque Omar ibn al-Khattab a vu ça, il s'est dit, si on ne fait pas quelque chose, eh bien le Coran disparaîtra de la circulation. Si les lecteurs du Coran meurent les uns à la suite des autres, Là, on en a 70 peut-être qui sont morts, ou plus, ou moins, Allah alam. Une autre guerre arrivera, une autre bataille arrivera, d'autres vont mourir encore. En sachant que les lecteurs du Coran, comme nous disaient les savants, ils étaient au premier rang, au front de la guerre. Donc c'était les premiers hein, à tomber en martyr. Donc si on ne fait rien, eh bien il arrivera au Coran ce qu'il est arrivé aux livres qui nous ont précédés. Et donc il a saisi Abu Bakr. Il a saisi Abu Bakr. Et Abu Bakr, au début, il était réticent. Il était réticent à faire ça. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de tomber dans l'innovation. Il avait peur de tomber dans la bid'a. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a répondu à Omar? Il lui a dit أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ. Vais-je faire quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait? Donc il avait peur, il y en a de prendre cette responsabilité-là. Et Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit فَإِنَّهُ وَاللَّهِ خَيْرٌ. Je jure par Allah Azza wa Jal que cela est un bien. Et là, Abu Bakr, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il fera? Il convoquera Zayd ibn Thabit. Voilà le rôle de Zayd ibn Thabit. Il le convoquera et il lui demandera donc de se charger de la compilation du Coran. Sauf que, malheureusement, le temps ne nous permet pas d'aller plus loin dans cette histoire-là. Il y a le récit complet qui a été rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah. Je vous le citerai dans une prochaine intervention, en détail, et on analysera donc chacune de ces phrases, chacune des phrases de ce texte. On essaiera d'en tirer un maximum d'enseignements. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Alors il est vrai que vendredi prochain, ça sera plus le ramadan, inshallah. Donc du coup, on verra quand est-ce qu'on reprendra inshallah les interventions. Léna, je pense que même une seule intervention ne suffira pas. Moi je pensais qu'une intervention suffirait encore pour terminer le sujet, mais je pense qu'il faudra peut-être une deuxième, inshallah. Donc du coup, vous serez informé, inshallah, sur la suite du programme. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an, alladhina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an, alladhina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma dhakkirna minhuma nusina, wa 'allimna minhuma jahilna, wa rzuqna tilawatahu anaa al-layl wa atraf an-nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا حجة علينا اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا حجة علينا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين